Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, le cinéma. Première émission cinéma de la saison et la présence chaque semaine désormais d'Antoine Guillot qui a pris en charge le nouveau magazine cinéma de France Culture Plan Large. Première émission samedi prochain à 15h en direct, en public du Festival du film américain à Deauville. Avec nous ce soir également, Charlotte Garçon et Julien Gester, je suis ravi de retrouver. À notre affiche ce soir, Tony Herman de Marraine à deux, Restez Vertical d'Alain Guiraudy, Nocturama de Bertrand Bonello pour cette émission. Et comme chaque soir, désormais, vers 21h20, Lucille Cobo nous invitera à débattre d'une question liée à l'actualité culturelle dans le petit salon. Et puis bien sûr, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film Mimosa d'Olivier Latché, actuellement au cinéma. Et nous ouvrons cette émission en respectant la chronologie des sorties avec Tony Herman de Marraine à deux, sensation du dernier festival de Cannes où beaucoup lui prédisaient ou espéraient la Palme d'Or pour le film de la cinéaste allemande qui est sorti le 17 août, qui a déjà rencontré un public très important. Un film qui s'intéresse à une relation père-fille. Inès, consultante allemande pour une grande compagnie basée à Bucarest, en tout cas à ce moment-là de sa vie, reçoit la visite surprise de son père, dont les excentricités ne sont pas pour elle tout à fait les bienvenues.
Well, I probably had a most horrible weekend of my entire life, actually. My father visited me spontaneously without anyone to be careful.
I offer the ladies a glass of champagne.
Oh,
I'm Tony. Tony Erdmann.
Also, du kannst jetzt schon sagen, dass du mein Vater bist, aber
Sie ist ja kaum noch zu Hause und deshalb habe ich mir jemand als Ersatztochter engagiert.
Das ist ja eine moderne Lösung.
Wie lange willst du eigentlich bleiben?
I have to arrest you.
So, und jetzt mach's bitte an.
I'm sorry, Bogdan. My father made a stupid joke. We have to solve this problem.
Ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst, auch. Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier?
Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort.
Wie sollen wir denn Momente festhalten? Ja, da muss man das noch machen und dies und dann und währenddem geht das Leben einfach vorbei.
Tony Herman de Marraine à deux, donc sorti le 17 août sur les écrans français. Est-ce que vous avez fait partie, Julien Gester, de cette. Est-ce que vous avez été pris par cette vague d'euphorie cannoise?
Ben voilà, les gens d'un coup ne se tenaient plus, se mettaient à applaudir au milieu d'une scène. Ils riaient, ce qui n'avait pas été observé au Festival de Cannes depuis plusieurs années. Et l'enthousiasme, en ce qui me concerne, il était redoublé par quelque chose qui peut intervenir quand on accompagne un peu comme spectateur ou comme critique la trajectoire d'un cinéaste qu'on aime et dont le parcours aimé s'inscrit dans un champ un peu, dans une marge éventuellement un peu confidentielle du cinéma, et c'était le cas de Marraine à deux, donc peu de gens avaient vu, je pense, les précédents films. Le premier était inédit en France, le deuxième qui datait de 2010, il me semble. C'est une cinéaste qui prend son temps et qui est par ailleurs productrice.
Bonne productrice.
Qui s'appelait Everyone Else. Je pense que peu de gens, dans mon souvenir, l'avaient vu. Et en même temps, c'était un film que je trouvais magnifique et dont, en même temps, qui ne contenait rien, qui laissait augurer qu'elle pouvait se retrouver en compétition à Cannes avec le film suivant, et surtout que le film puisse déclencher ce qui s'est opéré pendant le Festival de Cannes et aujourd'hui le succès qu'elle tient en salle. Et donc ce qui est très beau, c'est pour ça que je parle d'enthousiasme redoublé, c'est ce moment où un cinéaste non seulement prolonge ce qui faisait qu'on l'aimait, mais en plus accède à quelque chose, à une forme d'efflorescence de son art qui le rend plus partageable et qu'on sait qu'on va peut-être plus le partager. Dans le cas d'un Bertrand Bonello, par exemple, dont on parlera tout à l'heure, c'est ce qui est intervenu, je pense, pour beaucoup de gens au moment de la Polonide, où les gens qui avaient pu adorer Le Pornographe ou Tiresia, qui est des films qui avaient été pareillement peu vus, d'un coup se retrouvait face à un film qui était susceptible de faire, en l'occurrence, 200 000 entrées, plus tard 400 000 avec Saint-Laurent. Et donc ce petit miracle, entre guillemets, qui a intervenu à Cannes, c'est qu'un art qui n'est absolument pas changé par rapport aux deux précédentes réalisations de Marina II, qui est un art extrêmement précis, qui pose sur une accumulation de détails, sur une écriture extrêmement serrée, détaillée, à la fois des situations et des dialogues, sur une observation très puissante des situations, je pense aussi sur une capacité à incarner ces situations, au point que, évidemment, on a beaucoup cité les deux acteurs principaux comme des phénomènes qui auraient tous les deux mérité un prix d'interprétation à Cannes, éventuellement.
Qui ne l'ont eu ni l'un ni l'autre.
Puisque le film n'a eu aucun prix. Mais ce qui est, je trouve, stupéfiant dans tous les films de Marina II, par exemple, c'est à quel point le moindre troisième rôle qui n'a qu'une scène, par exemple, mériterait également un prix d'interprétation. Enfin, je pense par exemple, notamment dans le film, à l'assistante. Donc, il y a deux, trois scènes du personnage principal, du personnage d'Inès, qui ne paie pas de mine en arrivant comme ça, et je trouve, une actrice qui change la couleur des scènes à chaque fois qu'elle arrive, mais comme au diapason d'absolument tous les personnages, comme son patron, alors que souvent dans les films, et on voit bien que c'est un figurant qui joue un patron et qui a du mal à imposer son autorité à une star. Voilà. Et il y a cette force de Marina II par ces choses-là, par évidemment la direction d'acteur, par des détails, à incarner des situations qui, on parlera sans doute plus tard, plus abondamment aussi, des gags, etc. Mais qui lui permettent aussi de créer un niveau de détail et de précision, de sophistication dans l'étude de quelque chose de très simple qui est une relation et de nous faire l'accompagner au long cours.
Charlotte Garçon.
Oui, alors effectivement, ce qui est frappant, c'est le sens du détail. Et donc, ce sens du détail, il prend du temps aussi. Donc, ça crée un rythme particulier. Non seulement le film est long, 2h40, mais en plus, il se construit par blocs. Donc, en fait, c'est pas un timing vraiment de gag. C'est autre chose, c'est-à-dire laisser la caméra tourner au moment où la gêne, l'embarras, qui est soi-disant le moment comique, de toute façon, va se perdre. Et puis, nous, on reste là quand même en face. Et c'est un peu le principe du film que de durer et de voir ce qui reste entre les personnages quand ils sont quand même encore en présence, parce que dans la vie, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe au moment le plus embarrassant et le plus honteux. Il faut continuer à être en présence l'un de l'autre. Donc ça m'a effectivement assez séduite, ce rythme-là qui est quand même un pari par rapport à nous, spectateurs. Ça pourrait nous lâcher. Et puis aussi, c'est quand même la mise en présence de deux mondes. Moi, ce qui m'a frappée dans le film, c'est son ouverture. Alors ça, c'est peut-être à l'allemande. Certains films allemands ne frappent pas forcément par leur forme, par leur mise en scène. Et là, en fait, le premier plan, comme j'ai vu le film deux fois, la deuxième fois, ça m'a frappé, c'est vraiment, on est devant une maison, une porte de maison, et il y a les poubelles, quoi. Il y a vraiment des poubelles au premier plan, et on se dit, c'est vraiment le contraire d'une entrée fracassante. Et on va rester dans ce côté, c'est pas seulement le détail, c'est vraiment la chose qui, apparemment, est un détail très, très trivial. Et elle utilise toute cette trivialité-là, prend sens dans le film. Alors, je disais deux mondes, l'un va aller chercher l'autre. Le premier monde, ce serait le monde des flammes cucheux en boîte, et de cette petite vie du père qui est plus ou moins retraité, ou enfin pas loin de la retraite, prof de musique, mais finalement il a plus d'élèves, etc. Et qui va qui se délocalise jusqu'en Roumanie pour aller chercher le monde de la finance, qui vit de manière luxueuse parce que le pays lui permet de le faire. Parce que cette délocalisation permet à des firmes, notamment allemandes, de vivre plus grand. Et moi j'ai vraiment ressenti dans le film, pas seulement la relation père-fille, ce que c'est en tant que fille d'avoir un papa qui fait des blagues à tout bout de champ, ce dans quoi je peux tout à fait me projeter.
Ah bon ?
Oui, oui.
On a le droit des trucs.
Mais aussi, vraiment, cette coprésence des deux mondes, c'est-à-dire le monde du consulting, qui peut virer des gens, qui est là dans la performance, qui coach les gens pour qu'ils soient dans une performance par rapport à l'entreprise qu'ils viennent visiter, et puis la performance de quelqu'un qui ne peut s'empêcher de faire des gags. Et on voit bien que ces deux mondes se rejoignent, en fait. Qu'ils ont l'air complètement antagoniques, qu'ils ont l'air politiquement opposés, mais qu'en fait, ils ont un peu des techniques semblables, des techniques de performance semblables.
Antoine Guillot sur Tony Erdmann.
Charlotte Garçon parle de coprésence, moi c'est aussi beaucoup ce qui me frappe. C'est-à-dire qu'on aurait pu, avec un autre cinéaste, choisir le point de vue du père ou choisir le point de vue de la fille. Le film oscille sans arrêt et par un montage extrêmement brillant. On sent que le film, vous parliez d'écriture tout à l'heure pour le scénario, Julien Gester, mais il y a une écriture au montage qui est faite vraiment au poil près pour nous faire basculer sans arrêt d'un point de vue à l'autre et nous faire adopter les deux, et nous faire en tout cas comprendre cette complexité. Vous parliez de ce début de film, Charlotte Garçon, cette entrée avec des poubelles devant. Très bizarrement, c'est quasiment le même début que le film de Ken Loach, qui lui a remporté la Palme d'Or, mais qui pour le coup ne s'intéresse qu'à un point de vue qui est celui d'une des victimes, en fait, des personnages qu'on peut voir dans Tony Erdmann. Et je trouve très intéressant de s'intéresser justement à ces élites mondialisées et à ce qu'elles perdent en humanité, c'est tout le propos du film, sans non plus tomber dans la satire, la démolition. Et cette façon de dérégler un récit qu'on attendrait, puisqu'on commence avec le père, donc on pense partir avec lui, après étant plus ou moins habitué à un certain cinéma allemand, social, formellement assez rigide, qu'on a vu apparaître dans les 10-15 dernières années, le film, l'air de rien, va bifurquer. C'est pour ça que la durée est importante, c'est pour ça que les rires arrivent, parce que c'est un comique, que vous l'aviez dit Charlotte, qui est généré par le malaise, mais le fait d'étirer ce malaise jusqu'à en faire un moment presque d'exultation, notamment dans la scène de Whitney Schnook, pour ceux qui vont voir le film ou ceux qui le verront comprendront de quoi je parle, produit effectivement ce besoin d'exploser pour le spectateur. Et j'ai été moi-même surpris, parce que j'étais dans cette séance à Cannes où les critiques applaudissaient au milieu du film, ce qu'on ne voit jamais. On a effectivement ce sentiment à cause de la longueur, mais de la densité induite par le montage dont je parlais tout à l'heure.
Alors moi je me demande si on l'a diffusé à un certain gaz hilarant ou lacrymal dans la salle de Cannes, parce que alors, le problème quand on voit un film tardivement après en avoir beaucoup entendu parler, c'est qu'on risque d'être déçu, ce qui a été mon cas, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, dimanche matin quand j'ai découvert Tony Erdmann, que je trouvais certes un bon film, mais pas du tout le grand film que j'attendais. Je n'ai ni ri, ni pleuré. Moi qui pleure comme une madeleine au cinéma très facilement. Ça ne m'a rien fait, vous non plus, Charles Garçon, mais pas pleuré.
Non, je n'ai pas éclaté de rire et je l'ai vu dans une salle avec du public qui n'a pas non plus éclaté de rire.
Non, beaucoup de gens sont partis.
La valeur d'un film ne se juge pas nécessairement à une quantité de sécrétions produite à la fin de la projection.
Non, mais
il
me semble qu'un critique de votre journal a écrit que quelqu'un qui n'avait pas pleuré à tel film était un con, donc
il faut plus dans ce pas.
Oui, d'accord. Gérard Lefort, on vous embrasse. Non, mais ça peut se mesurer à ça quand on vous dit effectivement de toutes parts, ce film fait énormément rire, énormément pleurer. On peut en attendre beaucoup. J'en ai pas eu beaucoup. Et alors, vous parliez effectivement de cette écriture serrée, non détaillée, oui. Donc d'où les 2h40 qui pour moi sont pas toujours extrêmement justifiées, si ce n'est que ça permet à Marina 2 de pas faire de certains choix narratifs. Alors effectivement, il n'y a pas le point de vue du père ou de la fille, il y a les deux, et c'est peut-être là qui est justement mon problème dans ce film-là, c'est que du coup je ne saisis pas vraiment la relation, puisque l'apprenant parlait debout, elle est elle se met au milieu, elle observe, et j'ai pas senti cette relation d'une façon très très sensible.
Mais il me semble que, alors, comme le film est long, on a un peu l'impression qu'il est déstructuré dans le sens où on se dit c'est une série d'épisodes et finalement s'il reste le père, ça peut continuer longtemps. Mmh. Mais en réalité, il y a quand même un moment clé, il me semble, dans le film où la fille ressaisit l'agression permanente que constitue pour elle, l'agression sociale dans son milieu social que constitue pour elle son père, et va la lancer et va retourner le pouvoir qu'elle subit contre lui. C'est-à-dire que tout à coup, on s'aperçoit d'une part que c'est bien transmis de père en fille cette capacité de happening, mais aussi qu'elle utilise son père là pour son travail, pour être performant dans son travail. Donc il y a quand même.
Non, mais on le voit bien ce moment de bascule, parce que c'est la première fois, ça, si j'ai regardé à un moment, ça faisait une heure et demie que le film avait commencé, qu'elle sourit. Elle éclate même de rire, un tout petit peu. Elle a fait la gueule tout le reste.
Bah, elle a surtout regardé.
Donc on le voit bien, on ne risque pas de le rater ce moment de bascule.
Elle regarde tout le temps de côté, en fait. Elle a toujours un regard vers le hors-champ. Et puis à un moment, il y a quelque chose de beaucoup plus frontal qui se.
Julien Gestel.
Mais précisément, je trouve que ce que le film, la force du film et sa richesse, il l'épuise dans ce balancement, dans cette oscillation que vous décriviez, Antoine Guillot, entre les deux points de vue, dans le fait de ne pas choisir d'être du bon côté a priori du père,
c'est pas plutôt ce que celui de
la fille, mais à la fois socialement, à la fois politiquement, mais aussi à l'intérieur de cette relation, et que la description, le portrait de cette relation, mais aussi de la relation entre l'Allemagne et la Roumanie, vassalisée économiquement, politiquement, telle que à plusieurs reprises, à la marge d'une scène, et puis même plus directement lors d'une virée dans une exploitation pétrolière, on pourra l'approcher plus nettement. Toutes ces choses-là, il parvient à le décrire justement de manière complexe, parce que précisément de manière absolument pas univoque, et enrichi de différentes perspectives, où précisément, comme le disait Charles Le Garçon tout à l'heure, on s'aperçoit que finalement ces perspectives-là, elles s'opposent à bien des endroits, mais elles se complètent, elles se répondent par des stratégies similaires à d'autres, et donc tout le film consiste aussi à dépouiller les deux personnages de leur masque et s'apercevoir qu'il y a en dessous un autre masque en fait, et qui sont parfois simplement le même. Ce que je trouve très fort aussi dans le film, c'est justement d'arriver à rendre totalement je trouve, en tout cas c'était ma perception, presque illisible, indéchiffrable en fait, ces balancements, c'est-à-dire qu'on arrive à Bucarest avec le père et puis il part, on reste avec la fille, on se dit que voilà, maintenant d'un coup on a eu assisté au film du père, on va assister au film de la fille, et puis en fait non, les choses sont plus complexes que ça, et ce balancement va pouvoir se réopérer, et justement il va réécrire les enjeux de là où se trouve cette relation, il va lui permettre de progresser différemment dans ses sinuosités. Et ce qui est très fort par-delà cela dans le film, je trouve, et qui quelque chose qui en théorie vraiment devrait me déplaire, c'est la manière dont le film quand même procède par des coups de force, je trouve extrêmement efficaces. Il est vraiment dans la performance lui-même à plusieurs reprises. Au bout de 30-40 minutes de film, il y a un retournement extrêmement brutal de la cruauté d'une scène et de son objet. On va pas forcément dire quoi, même si le film est sorti depuis 2 semaines, parce qu'il y a des gens encore qui pourraient le découvrir. Et on se dit qu'a priori, un film, même le sachant durer encore 2 heures de plus, ne peut pas se relever d'un coup pareil. Enfin, a priori, il ne peut plus refaire le coup, en quelque sorte. Et la force de Tony Erdmann, la force de Marina 2, c'est d'arriver justement à presque tirer une forme de système de comment est-ce qu'il peut rejouer cet effet de surprise, comment est-ce qu'il peut rejouer ça plus fort, quitte même à le rejouer plusieurs fois à l'intérieur d'une scène. Et je pense que les gens qui l'aient vu ou qu'ils en aient entendu parler, enfin, savent qu'il y a un moment donné où juste les choses vrillent totalement et où le film arrive à recouvrir en quelque sorte à chaque fois son coup de force, et ça, je trouve que ça repose sur des ressorts qui sont tout sauf grossiers, qui sont d'une très grande complexité, qui sont d'une très grande richesse, et en même temps, la force du film aussi, c'est d'être pouvoir être revu. Vous l'avez revu, Charles Garçon, je sais pas ce que ça vous a fait, mais je dois dire que même en aimant énormément le film, je me posais la question en le revoyant de ce qu'il pouvait être comme autre film dès lors que ces effets-là de surprise étaient inventés. Déjà, ils arrivent malgré tout à nous surprendre encore une fois, et surtout, je trouve que, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, il y a une telle richesse, une telle profusion de détails dans le film, que en fait on passe son temps à découvrir un sac, un accessoire, quelque chose qui en fait enrichit chaque scène encore d'une lecture supplémentaire.
Quelques mots encore, Antoine Guillot, rapidement.
Oui, moi je suis surpris effectivement, mais j'entends ce que vous dites, que vous n'ayez pas ri, parce que moi la dimension,
je vois pas où en fait.
La dimension burlesque, triste presque de ce film, y compris par le travestissement, par le côté carnavalesque, une sorte de subversion régressive, moi m'a pris, mais vraiment profondément, à tel point que par moments je repensais à Hawks, je repensais à Cary Grant, je repensais à certaines au travestissement.
Bon, là, ne me cherchez pas, j'ai été doux là, mais il faut pas venir.
Non,
me
mais
chercher
je,
là-dessus,
je vous,
quand
je,
même.
Je, je vous assure, dans le jeu de Sandra Hüller, dans cette façon effectivement de tenter de maîtriser absolument le moindre détail du corps qui n'attend qu'une seule chose, c'est de se dérégler lui-même à la faveur d'une fermeture éclair bloquée ou d'un surgissement pileux, moi m'a provoqué ce type d'hilarité, d'autant plus que là encore je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire que l'économie du film, sa façon effectivement de comme vous disiez Julien Gester, de ne pas va-t-il réitérer ce genre de d'irruption comme ça et nous donnant l'impression que c'est parti pour se calmer et que ça reprend, il y a quelque chose rythmiquement qui moi me renverse, me prend presque comme dans un grand 8 émotionnel qui fait que par moments je me retrouvais à rire et à pleurer en même temps réellement, c'est-à-dire à ne pas savoir ce que je ressentais exactement.
J'aurais adoré. Charles Garçon, dernier mot.
C'est son art quand même de la bifurcation qui est pas seulement quelque chose de narratif, enfin qui pourrait être intéressant de manière rythmique ou formelle, c'est le fait que le père bifurque. Et c'est que seulement en bifurquant qu'il va aller parler avec un type de Roumanie réel qu'elle n'aurait jamais rencontré. Mmh. Et donc, il y a quand même aussi quelque chose de politique qui est là. C'est-à-dire que c'est en cherchant des toilettes qu'on va aller parler à quelqu'un.
Mais on cherche des toilettes parce qu'on a fait quelque chose qui a des conséquences et qui fait qu'on a vraiment besoin d'aller aux toilettes. On parle par énigme ce soir, c'est absolument magnifique. Mais j'ai pas dit que je trouvais que c'était un mauvais film. Je trouve pas que ce soit le grand film dont on avait beaucoup parlé. Mais il y a des effets comme ça d'annonces qui sont parfois un peu délicats pour les sorties. Ça a été pour moi le cas. Je recommande d'aller voir Tony Erdmann. Bon, prenez vos mouchoirs, quelques sécrétions que ce soit, pour aller découvrir en salle ce film de Marraine à deux.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure de Rester vertical, d'autres sécrétions à venir avec Alain Guiraudy et Nocturama de Bertrand Bonello. Avant cela, il est temps de suivre les pas de Lucille Como et d'entrer dans le petit salon. Bonsoir, chère Lucille. Au programme ce soir.
Des films d'été. En ce moment, dans les journaux et les magazines, il y a une publicité pour le film coréen Dernier train pour Busan, un film catastrophe avec des zombies. Ce n'est pas vraiment le film qui m'intéresse, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Il paraît qu'il est bon. Ce qu'il est écrit au-dessus du titre, à savoir « Marre des gros films de l'été, des comédies pas drôles, montées à bord ». Alors, je passe sur les comédies de l'été parce que c'est vraiment au-delà de mes forces. Observons certains des gros films de l'été qui sont sortis au mois de juillet et août. Période creuse, s'il en est dans la fréquentation des salles obscures. Je parlerai de Tarzan, SOS Fantôme, Star Trek et Jason Bourne. Personnellement, je n'ai vu que le dernier, je précise.
Ah bon, d'accord.
Quatre films qui sont ou des suites ou des remakes, pas besoin d'aller les voir pour le savoir, et surtout qui misent sur des héros et des recettes déjà vues et qui jouent un jeu dangereux avec les attentes du public. SOS Fantôme de Paul Feig tente de mettre ses pas dans ceux du film du même nom, Ghostbusters en version originale, réalisé par Ivan Reitman et sorti en 84, l'histoire de quatre chasseurs de fantômes qui sévissent dans les rues de New York. Un film devenu mythique et là, au jeu de la reprise, Paul Feig a carrément perdu. Les critiques ont été désastreuses et la bande-annonce de son film fait partie des 100 vidéos les plus honnies sur la plateforme YouTube depuis ses débuts. Moralité, pas facile de se colter un phénomène générationnel. Pas facile non plus de produire des suites à n'en plus finir et on peut se demander si les franchises Bourne et Star Trek, entre autres, ne sont pas désormais épuisées. Dans le cas de Bourne, c'est assez spectaculaire. Alors Jason Bourne, pour rappel, est une sorte de super espion interprété par Matt Damon, formaté pour servir le programme le plus secret et le plus performant des services américains. Les trois premiers volets avaient fait le tour du sujet. Le dernier laissait entendre que la fin de la franchise avait sonné puisque Jason avait finalement recouvré la mémoire. Et pourtant, quelques années plus tard, sortait The Bourne Legacy, une sorte de variation sur thème, avec un nouveau personnage interprété par Jeremy Renner, un autre super espion, qui évoluait dans le même système que son prédécesseur. Moi, je trouve que c'était plutôt un bon film. Alors, on pensait que c'était fini, et non, voilà que Matt Damon ressort du bois pour un opus riche en scènes d'action virtuoses, mais totalement dénuées de scénario. On se dit vraiment que Jason Bourne est fatigué maintenant qu'il a retrouvé la mémoire, il faut qu'il raccroche. Et puis, on se pose la question du bien fondé de ce système de franchise qui régit aujourd'hui toute l'économie des blockbusters américains.
Cet été, c'était particulièrement flagrant. Ça va continuer dans les semaines qui viennent avec la sortie d'un second Jack Reacher avec Tom Cruise. Et je pose la question, au-delà des Jack Reacher, Ethan Hunt, Jason Bourne, est-ce qu'il n'est plus possible d'inventer un nouveau héros de film d'action? Est-ce qu'il y a dans la constitution même du héros d'action quelque chose qui le rend si difficile à imaginer? Un article vient de paraître le 24 août dernier dans le Guardian, condamnant le manque d'inventivité des studios américains qui réutilisent indéfiniment les mêmes pots et pointe du doigt la faillite potentielle de ce filon à travers le crash cette semaine au box-office américain d'une des grosses sorties de l'année, je crois que ça sort la semaine prochaine en France, Ben-Hur.
Et Ben-Hur, j'ai lu hein, hier que ça avait seulement fait 11 millions de dollars de recettes en deux semaines pour un film qui en a coûté 100, c'est quand même absolument cataclysmique. Mais alors, moi j'ai lu qu'il y avait un Tony Herman 2 en préparation, vous me confirmez Julien Gester?
Vous avez des sources vraiment que je méconnais.
Ça se passera à Shanghai.
C'est vrai?
Ben oui, je vous l'annonce.
Mais ça sera pour 2022 quand on connaît la célérité,
la prolixité de Mariana 2.
Mariana 2.
Vous, c'est bien une franchise qui ne reviendrait que tous les 6 ou 7 ans, mais c'est pas tout à fait le cas. Dans les 4 cités par Lucille, vous en avez vu certains, les uns et les autres, Charlotte?
Oui, Charlotte même Garçon. Chose, Jason Bourne.
Oui, moi aussi. Antoine Guillot.
Moi, j'ai vu Jason Bourne aussi, mais j'ai vu un des gros succès de l'été qui est remonté avec le retour des vacances, des grandes vacances, c'est Comme des bêtes, un dessin animé, alors qu'il y a l'air d'être une nouveauté, mais qui en fait est une franchise aussi, puisque c'est un remake caché, voire un plagiat de Toy Story. Donc ça
ah bon
très bien.
Voilà. Mais fait par Pixar ou...
Non, fait par les Français, par les producteurs
ah oui, c'est
de,
ça, oui.
De Moi bête et méchant, mais qui reprend très exactement la trame narrative et le principe de Toy Story. Donc ce n'est pas que font les jouets quand les enfants ne sont pas dans la chambre, c'est que font les animaux domestiques quand leurs maîtres sont au travail.
Bah, écoutez, il n'y a pas de raison de se priver.
Mais c'est très, très réussi.
Ça vous a plu?
Oui, c'était très drôle.
Bon, d'accord. vous en aurez plus bientôt. Gilles Lester, vous avez vu quelques-uns de ces blocs?
Jason Bourne. Et Star Trek.
Ah, Star Trek, tiens, alors. Ouais. Je ne vous vois pas devant Star Trek, bizarrement.
Pardon ?
Je ne vous vois pas bien devant Star Trek.
Ah, mais j'aimais beaucoup les deux premiers.
D'accord, qui remonte à...
Non, les deux premiers, enfin, de cette nouvelle, de ce reboot.
Non, c'est trop compliqué.
De la 4. Non, mais Star Trek, c'est extrêmement compliqué.
C'est trop compliqué.
Non. Star Trek,
moi,
c'était
j'ai
déjà.
Vu la série télé, je suis arrivé.
C'était déjà compliqué
là,
avant. Quelle série télé? Il y en a 6, je crois.
Non, mais la vraie, la seule, l'unique.
Voilà. Et, donc là, vous n'ignorez pas qu'il y a eu ce qu'on appelle un reboot il y a quelques années.
Auquel tout à fait.
Présidait, J.J. Abrams.
Oui, ça, oui, c'est vrai.
Qui a réalisé les deux premiers. Et là, il n'est plus que producteur.
Et ça se sent.
C'est le. Ils sont l'architecte un peu du succès de la franchise Fast and Furious qui est aux commandes. Et ça se sent. Disons que c'est quelqu'un qui préfère filmer la machine que l'homme, finalement.
Bon, on a tous vu Jason Bourne, donc si je fais bien les comptes, c'est assez facile. C'est celle qui nous réunit.
Mais qui s'en souvient?
Alors moi, je l'ai vu il y a deux jours, donc je l'ai vu dimanche soir, c'était quand même assez frais. Vous disiez scène d'action virtuose, je vous trouve très gentil, parce que alors, Paul Greengrass, il faut l'enfermer quand même très très vite, parce que dans un film d'action, bon, à la limite, pourquoi pas, il n'y a pas de scénario, ça, on l'a bien entendu, quand on a vu le film, on en est quand même tout à fait convaincu, mais on ne vous comprend rien à ce qu'on voit quand même.
Ça,
c'est hallucinant, cool. Charles Garçon. Un film d'action, on attend d'être voilà, au moins qu'on ait du plaisir sensationnel physique. Là, on ne comprend rien.
C'est le défi du film d'espionnage. C'est-à-dire que si tout passe par de l'encodage, des ordinateurs, etc., comment visualiser, comment traduire en mise en scène
une poursuite en voiture.
Qui est impalpable et, je veux dire, immatériel. Non, mais la réalité, on sait très bien que la réalité, elle dépasse la rapidité même du montage à la truelle et beaucoup trop rapide de Greengrass. Donc, en fait, c'est très difficile à matérialiser. Il me semble que récemment, Michael Mann avait essayé de manière... de montrer la circulation dans les câbles.
Dans des magnifiques hackers.
Voilà. Ouais. Donc c'est voilà.
Pas la meilleure part de hacker pour autant.
Non, mais
en tout cas,
magnifique.
C'était l'une des réponses.
Oui,
moi, ce qui m'a frappé dans ce Jason Bourne, c'est que à la fin, quasiment de chaque séquence, la seule vraie action, c'est que le type a des muscles et donc il fiche un coup de poing. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on en arrive à la chose la plus simple du monde, c'est que il sort son.
Comment?
Je suis pas sûr qu'il y ait une autre ambition de la part de Paul Greengrass. Par ailleurs, le personnage de Jason Bourne est une bête. Enfin, c'est le principe, à la limite, c'est ce qui est le plus fidèle, je pense, à l'esprit de Jason Bourne.
Mais pour le coup, le Jason Bourne original, c'est vraiment une franchise, enfin celle celui des trois premiers films, qui à mon sens culminait justement avec l'épisode réalisé par Greengrass, qui était le troisième. C'est vraiment une franchise qui a totalement rénové le film d'action, d'espionnage hollywoodien, qui a totalement ringardisé et poussé à se rénover la franchise James Bond, et qui surtout s'est absolument attaché à inventer un nouveau modèle précisément amnésique, donc une table rase de héros d'action, qui collait assez directement à ce que vivait l'Amérique à ce moment-là. Et donc le troisième volet, c'était vraiment, ça, on faisait le soldat absolu des années Bush, d'Abu Ghraib, etc. Aujourd'hui, précisément, le problème, c'est qu'ils essaient de refaire le coup, justement, et qu'il n'y a plus qu'un effet de, un brouillard total de signes au premier plan, dont on sent qu'à toute force, ça, il faut le plaquer, et que c'est, il n'y a que ça qui les intéresse, qui, ici Snowden, ici, la Syrie, ici les hackers islandais, les lanceurs d'alerte, etc. Et ce qui fait que tout derrière s'effrite, se désincarne. Et je pense que le vrai problème du film, c'est ça, c'est que il n'y a que des effets de surface qui ne sont pas des effets plastiques, qui sont des effets de sens assez appuyés. Et j'ai certes pas un art pour, enfin, pardon, une passion pour l'art poids lourd de Paul Greengrass, mais je, pour le coup, je trouve néanmoins les scènes d'action tout à fait honnête et relativement, je sais pas si vous avez déjà vu un film de Michael Bay, mais par exemple.
Bien
mais
sûr.
Là, on est sur Angelopoulos.
Mais Michael Bay, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Hein. Je suis resté à The Rock ou un truc comme ça. Ou voir Bad Boys, non, c'était ça. C'est lui aussi, je crois. Antoine Guillot, vous voulez intervenir.
C'est vrai que malheureusement, le film fait l'économie d'une réflexion sur les paranoïas contemporaines. Puisque tout le principe, c'est la surveillance généralisée. Donc tout geste est prédictible et c'est comment échapper aux gestes prédictibles. Mais étrangement, dès que Jason Bourne se promène tête nue dans la rue, il n'y a aucun problème. Le système extrêmement sophistiqué de repérage par des caméras de surveillance, d'algorithmes qui vont vous dire s'il va là, il va aller là, tout d'un coup disparaît parce que Jason Bourne a besoin de se déplacer de tel endroit à tel autre. Il peut enlever sa casquette, il n'y a aucun problème.
Montrer qu'il a encore des cheveux.
Et le film, qui était adapté au départ d'un roman de Ludlum, qui parlait de la paranoïa de l'époque assassinat de Kennedy, donc on est vraiment dans les années 60-70, a été effectivement assez bien réactualisé dans les années Bush, comme ce corps patriote qui, même sans rien savoir, est finalement toujours très efficace. Et c'est le bon soldat dépassé par son corps d'une technicité absolue. Là, le problème, c'est que Matt Damon s'est très largement empesé, donc son personnage aussi. On a une espèce de mastar extrêmement musclé par ce qui ressemble quand même largement à de la gonflette, et qui a un corps affligé, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de se lamenter, de se dire « c'est terrible, je souffre, j'aime pas bien savoir qui a tué papa », etc. » C'est un ressort dramatique dont plus personne n'a rien à faire.
C'est d'arriver à faire le point sur la focale dans un souvenir. Tout
voilà. La fiction en permanence de ce personnage fait qu'on se fiche à peu près de tout ce qui peut lui arriver. Et je suis bien d'accord avec vous pour le coup, Arnaud Laporte. C'est-à-dire que la manière de filmer, c'est pas seulement le montage, c'est que cette caméra qui donne l'effet documentaire à la Paul Greengrass, c'est-à-dire qu'on cadre pas, hop, on essaye de recadrer de façon approximative. La caméra bouge dans tous les sens pour donner l'impression qu'on y est. Effectivement, pose des gros problème de lisibilité qui nous retranche d'autant de l'action qu'on est censé comprendre peut-être.
Bon, moi je vous recommande, après Deadpool qui avait réjoui mon univers, je vous recommande Suicide Squad qui m'a énormément réjoui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu les uns les autres.
Non, vous êtes la première personne que je rencontre qui n'était pas totalement affligée.
Ah non, mais ça m'a réjoui, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Comme Deadpool, hein, ouais, il faut situer les choses où elles sont. Hein. Mais puisqu'on parle de blockbuster et que celui-ci est en salle.
En revanche, je recommande aussi Dernier Train pour Busan
Il y a eu trois gros films de genre coréen cet été.
The Strangers, magnifique.
Et Blackstone.
Blackstone. Et maintenant, Le Dernier Train pour Busan.
Voilà, et qui ne sont jusqu'à preuve du contraire pas encore des franchises.
Parce que c'est le dernier train, il ne peut pas y en avoir un suivant, c'est assez logique. Allez, fermons les portes de ce petit salon. Parce qu'il nous reste quand même deux films, et pas des moindres, également à l'affiche dans cette dispute cinéma du mardi soir. Un autre film présenté à Cannes cette année, celui du français Alain Guiraudy, Resté vertical. Lui, il est sorti mercredi dernier sur les écrans, un film qui nous invite à suivre Léo, qui semble être scénariste, peut-être même cinéaste, qui est surtout à la recherche de lui-même, dira-t-on, ce qu'il fait en voiture ou sac à dos, tantôt au bord de l'océan, tantôt sur des causses de Lozère, et il va y rencontrer sur le causse de Lozère Marie, une bergère de retour chez son père, et à qui Léo va un temps s'installer, mais l'histoire est loin de s'arrêter là.
Concentrez-vous. Vous allez penser à un lieu. Qu'est-ce que vous voyez ?
Un désert très sec.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce paysage ?
Une jeune femme.
Cette jeune femme, elle est seule ?
Oui. Enfin, non.
Il est nerveux en ce moment, c'est à cause des loups.
Tu fais quoi de beau dans le coin ?
J'aime beaucoup ce cause. Et puis, je m'intéresse aux loups, justement.
Et tu t'y intéresses comment ?
Bah, je suis comme tout le monde. Ça me fascine et ça me fait peur, mais j'aimerais bien en voir.
T'as entendu ? Après, tu rentres chez toi ?
J'ai plus de chez moi.
Mais t'habites où ?
J'ai mes affaires à droite à gauche.
T'as envie de vivre avec moi ? Tu vas repartir, c'est ça ?
Je réalise que c'est ça que je voulais depuis le début. Un bébé pour moi tout seul.
Tout va bien alors, vous êtes content ?
Tu veux pas poser ce fusil ? Tu me fous la trouille avec ça.
Rester vertical d'Alain Guiraudy, lui aussi reparti bredouille du festival de Cannes, c'est la soirée. Commence avec Charlotte Garçon.
Oui, en fait, peut-être faut prévenir les grands adorateurs du monde très très fantasque de Guiraudy qu'il y a eu une sorte de changement de régime. Mais en réalité, je pensais, oui, parce que je pensais en voyant le film à la légende de Faftao Laupo. Dans, je crois que c'est dans Pas de repos pour les braves, et où le personnage est prévenu que c'est la dernière fois, enfin c'est son avant-dernier sommeil, et que dans son prochain sommeil, s'il dort une fois encore, il mourra. Mmh. Et ça m'est revenu en tête en voyant, avant même de voir le film, le titre, Rester vertical, parce qu'il y a toujours cette idée comme ça d'être debout. sinon on peut dormir et donc mourir. Mais aussi l'impression, là, je n'ai jamais eu cette impression aussi fortement que là en voyant ce film, que finalement, pour Guiraudy, tout l'aspect onirique, c'est le contraire du sommeil, en fait. Et que ça garde debout. Et que dormir, c'est... Que rêver, c'est le contraire de dormir.
Ce vieux rêve qui bouge, vous voilà. Vous souvenez de son très beau moyen-métrage.
Mais tout de même, ce qui frappe dans ce film-là, c'est le côté beaucoup moins clos et beaucoup moins parfait. Et donc, j'ai été un petit peu déroutée. Mais finalement, le film vieillit très... Enfin, ce beau dans le souvenir qui me reste, parce que j'avais trouvé L'inconnu du lac absolument éclatant, enfin, même dans sa lumière, dans la perfection de son rapport à l'espace, de la façon dont il formait une clôture dans laquelle à la fin on était soi-même enfermé et dans laquelle le personnage était lui-même enfermé. Et du coup, j'ai été un petit peu déroutée, c'est le mot, par justement les bifurcations permanentes du film. Bifurcation parce qu'on commence sur une route, qu'on s'arrête, mais on s'arrête pas vraiment, on dragouille, mais pas vraiment, etc. Et puis bifurcation parce que il y a quand même des lieux, plusieurs lieux, trois lieux, vous en avez parlé, et qui ne sont pas reliés. C'est-à-dire que le personnage passe longtemps à Brest, il passe longtemps en Lozère, mais en fait, c'est très elliptique. La façon dont le montage est fait, c'est vraiment un montage qui repose beaucoup sur des coupes qui nous amènent dans un autre endroit. Et puis, il y a ce troisième lieu, le Marais Poitevin, qui là, c'est carrément la nuit du chasseur. Enfin, on est dans une sorte de bayou absolument incroyable. Donc, je trouve qu'on est en permanence surpris et que finalement, si on se laisse, et au lieu de juger et de se dire mais où il va, il sait pas où il va arriver, tout à coup, on se dit bon, effectivement, il raconte l'histoire de quelqu'un qui n'arrive pas à écrire un scénario, sauf que lui, il écrit son scénario et que c'est un scénario, effectivement, de l'embranchement, de la bifurcation et de la recherche de son désir et du fait que peut-être il y a une cohabitation possible des désirs et une sorte de réversibilité des rôles des uns et des autres. Et donc tout ça peut être très ébranlant, en fait, puisque on est soi-même, je dirais, embranché. Voilà.
Non, écoutez, que de beaux mots employés par Charlotte Garçon pour parler de rester vertical. Charlotte Garçon, ça, c'est fait pour l'instant. Antoine Guillot.
C'est précisément le plaisir que j'ai ressenti. On parlait de franchise tout à l'heure. Comment ne pas faire L'inconnu du lac 2, c'est-à-dire ce que pourrait attendre tout producteur sensé avec le grand succès public.
Producteurs ne sont pas sensés.
D'Alain Guiraudy, donc lui n'a pas de productrice sensée puisque c'est Sylvie Piala, et qui lui laisse retourner d'une certaine manière dans son univers. Moi, j'ai eu un sentiment tout au contraire de familiarité très très forte avec ce que faisait Alain Gurdy, ce qu'il a toujours fait dans ses courts, moyens et longs métrages. On pense à ce vieux rêve qui bouge pour cette érotisation du corps âgé et prolétaire. On pense à ces films comme Pas de repos pour les braves, Du soleil pour les gueux, c'est-à-dire cette réinvention d'un territoire qui inclut comme toujours le plateau du Larzac, mais qui peut effectivement, en descendant une route, finir à Brest. Parce que moi, j'ai pas senti ces ruptures. Oui, mais
c'est dans votre monde.
Ça, c'est parce que vous êtes renseigné. C'est-à-dire que vous avez vu que le film avait été tourné à Brest.
On voit dans le film que c'est Brest. Mais c'est pas un problème.
On voit que c'est l'océan.
Comme dans les films de Rivette, la géographie de Paris était totalement réinventée.
Très précisément, on réinvente un territoire de cinéma, pour le coup, dans lequel on peut circuler, comme circule le personnage, dans ce qui est quand même très, très évidemment un conte de fées. C'est-à-dire, toutes les figures sont là. Le loup, évidemment, avec toutes les expressions possibles, voir le loup se jeter dans la gueule du loup, tout ce que vous voulez, mais la bergère, l'ogre, etc. Sauf que lui redistribue le personnage. Le personnage lui-même, est-il un petit poussé, est-il un petit chaperon rouge, va réinventer sans arrêt, y compris les rencontres, les relations, dans cette sorte de pansexualité permanente, où le monde du rêve, comme vous l'avez dit, on s'y promène, mais on n'est plus là pour se dire, est-ce que là on est dans la réalité, est-ce qu'on est dans la fiction, et pourtant le réel prend, c'est-à-dire que c'est resté effectivement vertical dans un monde qui s'aplanit en permanence, qui est celui du déclassement social, qui est celui de la perte, et de ce qu'on peut rechercher et ce à quoi on fait face, y compris cinématographiquement parlant, avec certains plans qui font littéralement face à ce qu'ils montrent.
Julien Gester.
Et parce que oui, vous dites on reste dans le réel, parce que précisément on n'est pas dans le monde du rêve. Et c'est ce que le film tarde à dévoiler peut-être ou à donner à son spectateur, et c'est ce qui peut dérouter, je pense, parce que en un sens, comme vous l'avez dit, non seulement il ne refait pas l'inconnu du lac 2, mais il dilapide la mise. Et il joue même, je trouve le film formidable, mais c'est un film qui est presque le négatif du précédent, c'est-à-dire qu'on avait un film gorgé de soleil et qui là, un film absolument de pleine lune avec des déambulations nocturnes absolument somptueuses. C'était un film d'une efficacité de thriller quasi métronomique, arithmétique, d'une rationalité totale. Et ici, on est précisément dans quelque chose dont presque les scènes flottent un peu. Avec, sans que les coutures soient tout à fait justement cousues ou jointes. On était dans un lieu unique ici, on est dans une France disjointe, repliée, enfin littéralement comme un origami sur elle-même, ce qui permet de sauter de la Lozère à Brest ou au Marais, voilà. Et on était dans la plénitude totalement érotisée, même si inquiète évidemment de cette plage, l'inconnu du lac. Là, c'est un monde qui n'est que qu'angoisse, anxiété, et en même temps absolument organique, parce que dans une labilité, dans une plasticité totale des êtres, des désirs, des liens qui les tissent, même on a un sentiment parfois, oui, comme vous le disiez, que presque quelque chose, des personnages qui s'inversent en quelque sorte. Et donc, en un sens, quand je dis qu'il dilapide la mise, c'est qu'il prend ce risque de nous perdre absolument pendant une heure, jusqu'à ce qui nous donne quelque chose par une scène qui est peut-être un peu plus signifiante qu'une autre et que je trouve néanmoins très belle, d'assaut nocturne. Ceux qui ont vu le film, je pense, sous un pont de Brest, les gens la reconnaîtront, comprennent qu'on n'est pas dans le monde du rêve, mais qu'on est dans l'ordre du rêve, littéralement. Et que c'est cet ordre-là qu'il choisit pour arpenter ce monde-là qu'il réinvente. Et ça, dans le sillage déjà d'un comédien qui est un visage récurrent de quatrième rôle du cinéma français, et qui là se révèle à maladresse comprise, et qui, je crois, est déjà promis à une belle carrière derrière, parce qu'il va tourner avec Christopher Nolan aux États-Unis partout.
Enfin, c'est... Ah bon ?
N'importe quoi.
C'est
enfin,
vrai.
N'importe quoi, il méritait.
Tant mieux.
Mais je veux dire, le saut en avant est très impressionnant, qui s'appelle Damien Bonnard.
Incroyable.
On va voir d'en voir du pays bientôt.
Oui, qui filme très bien tous ses acteurs, enfin parce qu'il sait le faire, mais malgré une rudesse qui est celle du film là, qui est pas celle du film précédent, c'est un film que je trouve extrêmement entêtant et que ça qui gagne sur la durée, mais aussi comme vous le disiez Antoine Guillot, vraiment sur la, enfin ça fait 6 mois que le film me revient régulièrement en tête depuis sa présentation à Cannes, et je pense que c'est pas du tout un film moins accompli que ne l'était L'Inconnu du Lac, dont on pouvait penser que c'était un peu la fois où enfin il arrivait à accomplir sur un long métrage qu'il faisait avec ses moyens. Je pense que c'est un film au moins aussi fort, aussi riche, aussi profond.
Alors moi je dirais que c'est, non pas pour contredire Charlotte, mais plutôt pour aller dans le sens de ce que disaient Julien Gester et Antoine Guillaume, que c'est le film de la synthèse en fait pour Alain Guiraudy, parce qu'effectivement je pense que là il y a une expérience retenue de l'inconnu du lac, hein, dans une forme narrative qui est quand même relativement classique par rapport à, notamment au moyen-métrage, court-métrage d'Alain Guiraudy, mais que j'aime infiniment. Mais il y a cette liberté toujours qui est d'abord celle de ne pas juger les gens qu'il filme, les personnages qu'il filme. Ça veut dire laisser de la place au spectateur pour avoir un vrai rapport qu'on peut avoir dans la vie avec des personnes qu'on rencontre. Et moi, je ressens toujours ça chez Alain Guiraudy. Je trouve ça extrêmement précieux et très généreux de sa part de nous permettre, de nous donner cette place-là et cette liberté. Bon, vous l'avez dit, elle est aussi formelle au sens de la géographie, effectivement, qui n'est pas une question en fait chez lui. Pareillement, les références picturales qui sont un peu plus manifeste ici que dans les films précédents, mais elles sont quand même pas très lourdes, pas trop appuyées. Je trouve qu'il y a une certaine délicatesse et en même temps une très grande beauté. Vous avez le dossier de presse sous la main, vous allez me dire qui est le chef opérateur, Antoine Guillaume, si vous voulez bien. C'est Claire Maton. Voilà, j'en étais pas sûr, donc je voulais pas dire de bêtises. C'est effectivement Claire Maton. Et puisque vous avez parlé de Damien Bonnard, je voudrais faire une mention spéciale pour India Air, qu'on a déjà aperçu ça et là dans des rôles trop petits, à bon goût. Donc il joue ici Marie, que je trouve que c'est une comédienne qui amène quelque chose de très, très très nouveau dans le paysage cinématographique, pas seulement français, mais cinématographique tout court. Je trouve qu'elle a une présence et là on voit que sa palette est quand même très étendue. Je trouve qu'elle est vraiment, c'est quelqu'un que j'ai envie de voir davantage sur une plus longue durée, avec de plus grands rôles. Enfin, je suis très heureux qu'Alain Guiraudy lui donne cette possibilité-là. Mais enfin voilà, ça joue quand même aussi, c'est vrai, sur tous ces êtres qu'il filme, plus ou moins professionnels. Là, ils sont quand même plus que d'habitude, mais une sensibilité aussi pour les comédiens, je crois, de garçons.
Oui, parce que vous parlez de rapport à l'autre, de rapport humain, moi, ce qui me frappe dans le film, c'est qu'il utilise la logique du rêve dans laquelle on peut dire « ah » et « nona », enfin, de manière très simple, on peut dire « oui » et « non » en même temps, etc. Mais dans les rapports humains, et il comprend quelque chose de la réalité des rapports humains, c'est qu'on peut dire « non » à quelqu'un qui vous drague, mais en fait, oui, en même temps, on peut rejeter quelqu'un, le vieux, qui a l'air de s'en fiche, enfin, de rejeter, et en fait, il invite en même temps en disant ne rentrez pas, ça fait rentrer. Et en permanence, c'est possible d'entendre une chose et son contraire, et je trouve que c'est très très rare de pouvoir le faire au cinéma et de pouvoir, avec des acteurs comme ça, le filmer, parce qu'on le vit quand même tous les jours.
Restez vertical, Alain Guiraudy, actuellement à l'affiche.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the ride.
Troisième dispute, il nous reste une dizaine de minutes pour un film qui sort sur les écrans demain, qui lui n'était pas en compétition à Cannes, où beaucoup l'attendaient, c'est Nocturama de Bertrand Bonello. Dans la longue séquence d'ouverture, le film va suivre une dizaine de jeunes gens à travers Paris, dans le métro, dans la rue, en voiture, séparément par petits groupes, agissant de bien curieuses façons, mais visiblement coordonnées, et s'apprêtant sans nul doute à mener une action commune. Je laisse les trois petits points et je donne tout de suite la parole à Antoine Guillaume pour parler de Nocturama de Bertrand Bonello.
Oui, donc le film n'était pas en compétition à Cannes. Il y avait Mal de pierre de Nicole Garcia à la place. Moi, j'ai été très, très frappé par ce début, justement. Ce côté film d'action pur. Et en même temps, le nom de Jacques Rivette a été évoqué tout à l'heure, dépeint Paris comme un terrain de jeu, un terrain de conspiration.
Paris nous appartient.
Le film aurait pu s'appeler Paris nous appartient. On est dans ce mystère de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Bon, on voit assez vite ce qui se passe, et je pense que la plupart des auditeurs savent de quoi il s'agit dans ce film, qui est un film en deux parties. La seconde partie se passant dans un lieu clos, pour le coup. On n'est pas dans le Paris, on peut quand même dire ce que c'est.
Une nuit au grand magasin.
Enfin, voilà, il y a un grand...
Paris nous appartient.
Presque aussi
magasin.
Drôle.
Il y a un grand magasin, et là, on part tout d'un coup dans un autre registre. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'action, le réel, d'ailleurs tous les trajets, là pour le coup on n'est pas chez Rivette, tous les trajets faits par les personnages dans Paris sont extrêmement réalistes, c'est-à-dire qu'on passe d'un point à un autre, de façon vous pouvez refaire le trajet des personnages sans forcément faire la même chose qu'eux, et après on est dans ce lieu clos qui est un lieu très bonélien pour le coup. Ça pourrait être la maison close, ça pourrait être le château de la guerre, c'est ces univers effectivement qu'il affectionne pour ce côté fantasmatique que
ça permet. On est pour le coup dans un lieu du fantasme. Alors la structure elle-même, moi, m'a beaucoup rappelé. Bon, j'ai vu après que Bonello s'y référait, le zombie de Romero. Et on est dans ce cinéma de genre au début qui va partir vers à la fois le rêve, l'allégorie et un discours politique qui finalement est beaucoup plus à l'intérieur de ce grand magasin qu'à l'intérieur, avec cette scène d'un personnage se reconnaissant dans un artefact du grand magasin, qui montre que ces jeunes gens dont on ignore pour beaucoup les raisons de l'action, tout cela est éludé assez rapidement, se retrouvent digérés à l'intérieur même de la société qu'ils prétendent combattre. Non seulement ils sont digérés, mais ils sont eux-mêmes cette société. Et pour le coup, la référence aux zombies de Romero prend une autre ampleur, là encore, parce que ce ne sont plus des zombies qu'on combat, le zombie, les gens sont devenus déjà les zombies qu'ils voulaient combattre, et ce moment-là est extrêmement glaçant. Le tout est fait avec une mise en scène à la fois d'une élégance, d'une efficacité et d'un lyrisme que je trouve extraordinaire.
Voilà, c'est bien, c'est synthétique. Jean Gester.
Ce renversement, d'ailleurs, il s'opère doublement, parce que ça, j'étais frappé comme vous par justement ce côté, cette identification aux zombies. De la même façon, on peut retrouver, mais les deux films déjà, Zombie et celui de Carpenter, son cousin, ont quelque chose d'assaut dedans, sauf qu'ici, on est du côté...
Jusqu'à la musique est très carpentérienne.
On est du côté, en un sens, des assaillants, mais des assaillants retranchés. Et par rapport à la référence à zombies, on peut dire qu'il y a un moment de stupeur dans le grand magasin chez les personnages principaux face à l'apparition d'une silhouette qui leur fait l'effet d'un zombie, et c'est l'homme justement, c'est la personne la plus banale et la plus commune qui soit qui produit cet effet là par contraste. Le film m'évoque aussi deux autres films, en fait, chacune dans ses parties. Il y a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, mais en fait il y a deux éléphants dans ce film. Il y en a un dans la première partie, Bonello le cite souvent en expliquant qu'il l'a montré à ses comédiens et son équipe deux jours avant le tournage, qui est celui d'Alan Clark, réalisé à la fin des années 80, en plein conflit nord-irlandais, où on suivait des raids meurtriers, voilà, avec une caméra qui braquée sur le dos de quelqu'un qui va accomplir un assassinat, qu'on accompagne aller et retour. Et dans la marche silencieuse, les trajets qui se croisent, entrecroisent, tissent une toile dans Paris, un plan quasi stratégique, d'où émergent ensuite des cibles très fortement chargées de symboles, évidemment, à cette attaque coordonnée qu'il prépare. Je crois qu'on peut le dire, puisque le premier synopsis du film, avant qu'il ne soit rattrapé par l'actualité, c'était « De jeunes gens posent des bombes dans Paris », avant qu'ils ne deviennent « De jeunes gens entament une chorégraphie étrange dans Paris
»
à la suite des attentats de novembre, et du changement de titre du film qui était originellement « Paris est une fête », ce qui... pour des raisons évidentes.
C'est un vieux projet de Bonello.
Oui, il a écrit en 2010. Il pensait tourner en 2011 et on lui a commandé Saint-Laurent. Mais pour revenir au film.
L'autre film qui vous.
Il y a cette deuxième partie qui est un autre film qui s'appelle Elephant, qui est un film de Gus Van Sant, où je trouve que, évidemment, il y a des figures de mise en scène très précises et que je trouve sont portées ici au même degré d'éblouissement que dans Elephant, autour d'un ruban qui du temps qui s'enroule autour d'un moment, et comme si un disque, et le film fonctionne beaucoup comme un disque avec ses deux faces, se rayait et opérait une boucle autour d'un instant qu'on va observer sous ses différents angles. Mais il y a aussi, et ça me semble assez crucial, je pense pas que Bonello y ait forcément pensé, mais de fait là qui se pose forcément la question, vous disiez qu'elle est éludée, la question des motivations de ces actes là et au contraire je trouve qu'il reconduit, peut-être pas de manière aussi appuyée, mais il y a vraiment véritablement quelque chose d'Elephant, c'est-à-dire du Elephant de Gus Van Sant, c'est-à-dire poursuivant une abstraction, plutôt que de retrancher toutes les considérations et de faire un film totalement détaché de la situation, du monde qu'il dépeint, etc. Au contraire, il en accumule les signes, il en accumule les évidences, et qui, dont la somme, disons, produit la nullité de toutes, en fait. Et donc, comme dans Elephant, on a là à la fois des choses qu'on peut trouver grossières lorsqu'on perçoit les premières. Voilà, un tel qui lit une coupure de journal, un autre qui a une vexation à la banque, tel autre qui joue aux jeux vidéo, un autre qui parle du paradis auquel ne croit absolument pas son camarade. Et donc, de la même façon, la somme des profils de ces tueurs, en fait, crée une forme de nullité du profil dépeint, parce que tous s'annihilent entre eux, et au fond, ce qu'il dépeint, je pense, c'est plus, il emploie beaucoup ce mot, mais je trouve qu'il est très juste sur le film, un geste, un élan, une énergie, qui n'est pas celle du film, mais qui est celle qui est le miroir de sa fascination.
Charlotte Garçon, sur Nocturama, qui sort demain.
Oui, malheureusement, moi j'ai eu vraiment l'impression d'un jeu à somme nulle. Alors, il me semble à chaque fois que je vois un film de Bonello que ce qui est beau, c'est qu'il tombe jamais dans le travers, qui réfléchit lui-même à son propre travers, qui serait celui d'une clôture esthétisante. Vous disiez qu'il s'intéresse souvent à des petits groupes, des petites sociétés fermées, pour cause la maison close. Et est-ce qu'elles ont de subversif ou de l'ordre du refus qu'elles peuvent opposer à la société extérieure, par exemple? Et moi, il m'a semblé au contraire que le film était effectivement coupé en deux, mais extrêmement verrouillé, et que si tout était comme ça diffracté, et finalement pour un jeu à somme nulle, comme vous le disiez, les cartes sont battues, les choses sont mises, mais finalement rien n'est produit, c'était parce que peut-être le cinéaste était lui-même dans une clôture et un enfermement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'il peut effectivement dire « mais moi, je ne parle pas de l'ultra-contemporain, je ne parle pas du terrorisme actuel, etc. » Peu importe, pour moi, le résultat est que j'ai l'impression de quelque chose d'extrêmement dandy, si vous voulez, esthétisant. Ça m'a rappelé, moi, un autre film, c'est Le Policier de Nadav Lapid, le film israélien, dans le côté absolument daté de l'engagement de ces jeunes. Alors peut-être c'est un idéalisme qui est montré comme tel, qui est montré comme, je sais pas, post-camusien, sartrien, etc. Mais pour moi, ça ne communique absolument pas avec... ni une jeunesse actuelle. Enfin, tout est idéalisé. C'est-à-dire que ça peut être une critique de l'idéalisation d'une certaine jeunesse, mais en réalité, pour moi, c'est un film qui est pris dans son idéalisation de ce que c'est qu'un réalisme réinventé, de ce que serait un réalisme qui ne serait pas bassement naturaliste. Hein, je vois bien que c'est, évidemment, c'est pas du tout quelqu'un qui veut faire du cinéma réaliste, mais pour moi, ce qu'il produit, c'est quelque chose d'extrêmement éthéré, détaché, au point que dans les circonstances, effectivement, de la vision, ça peut agacer, ça peut déranger. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé toute la richesse que vous... Et d'autant plus qu'on avait vu à La Samaritaine, quand même, Holy Motors, donc voilà, il y a eu des possibilités de génie qui se sont un petit peu...
Ce n'était qu'une bien plus courte séquence dans le film de Los Carax, mais moi j'étais très impressionné par la maîtrise formelle de Bertrand Bonello, notamment dans cette scène d'entame, hein, dont on a parlé de ces parcours qui se croisent, mais Truffaut disait au moment de la sortie de Paris nous appartient, ce sera le film de notre génération. Je suis pas sûr, là je vous suis, Charlotte Garçon, que Nocturama sera le film de la génération 10, on va dire ça comme ça, mais je ne crois pas non plus que ce soit vraiment le but de Bertrand Bonello. Je pense que c'est plus quelque chose qui parle de lui et de son regard sur le monde que le film qui voudrait être un porte-parole. Moi, j'ai vraiment des grosses réserves sur les questions scénaristiques, on va dire. Je ne veux pas quand même divulgâcher ici, d'autant plus que je n'ai pas le temps, donc ça tombe d'une certaine façon bien. Au-delà du problème de prendre parti ou d'expliquer, etc., il y a quand même des invraisemblances, des incohérences qui sont quand même gênante pour un film de cette nature, surtout quand on a travaillé longtemps sur le scénario. Mais voilà, moi, formellement, j'étais quand même très épaté par Bertrand Bonello, mais il faut absolument qu'on s'arrête là-dessus, concernant Nocturama, qui sort demain sur les écrans, parce qu'il est déjà l'heure de conclure, le Silcomo. Vous demandez de nous rappeler, concernant le jeu de la dispute, quelle était la question, et donc la réponse aussi, au jeu d'hier soir.
La question était l'affiche du précédent film d'Alain Giraudy, L'Inconnu du Lac, représentait en arrière-plan deux hommes enlacés. Elle avait choqué deux municipalités qui l'avaient fait retirer de leurs panneaux. Quelles étaient donc ces deux villes? Et la réponse était Versailles et Saint-Cloud.
Un petit rappel au passage. Ce soir, d'invitation pour le film Mimosa d'Oliver Latché. Actuellement en salle, quelle est la question, Lucine?
Alors, Mimosa est un film composé en trois parties, le Roukou, le Kiam et le Sajdar. À quoi correspondent-ils?
Votre réponse, c'est que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Charles Garçon, Lucille Como, Julien Gester et Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Informations sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi vous abonner au podcast de cette émission et nous écrire. Dispute possible grâce à Lucille Como, Daniel Finot, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son ce soir, Jean-Louis Deloncle, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. en compagnie de Yasmine Youssi et Harry Bellé à notre affiche Beat Generation au Centre Pompidou, et un retour sur les rencontres d'Arles qui se poursuivent jusqu'au 25 septembre. On évoquera aussi Rester vivant, sur et de Michel Houellebecq au Palais de Tokyo, et Francis Bacon, Monaco et la culture française. C'est le titre complet d'une exposition actuellement en cours au Grimaldi Forum de Monaco. Avant tout cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, votre nouveau rendez-vous, les discussions du soir, dans quelques instants, le journal de la rédaction.